Africa.
Le plus de la grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
Le plus de la grande matinale, deuxième rendez-vous de la semaine en ce mardi 14 janvier. Votre traditionnel rendez-vous tous les mardis sur Africa Radio. On parle d'entreprise avec un coach, oui, pour tous les entrepreneurs. On va justement revenir sur le sujet de la semaine dernière en prélude de la création d'entreprise. Bonjour coach et bienvenue.
Bonjour Phil.
Alors si on revenait un peu sur ce que l'on avait évoqué la semaine dernière sur l'entame d'une création, quels sont justement les éléments avant de se lancer en entreprise?
Vous savez, selon le programme que nous avons mis en place, c'est à savoir sur les préludes de la création. La semaine dernière, nous avons abordé déjà le premier point, à savoir est-ce que le futur créateur a les compétences nécessaires pour se lancer dans sa nouvelle activité.
Voilà, parce qu'il ne faut pas aller dans n'importe quelle activité sans avoir au moins les bases de cette activité.
Tout à fait. Donc nous avons abordé ce point-là. Nous avons donné quelques indications comment faire pour éventuellement monter en compétences par le biais des formations ou carrément être en situation d'emploi pendant quelques mois, voire quelques années avant de se lancer dans cette activité-là.
Quels sont les éléments nécessaires justement de se lancer en entreprise ?
Pour ma part, c'est simple. Il faut déjà cumuler une expérience dans le domaine pour lequel on souhaite se lancer. Si par malheur, vous n'avez pas encore ces compétences-là, il est conseillé de s'associer avec une personne compétente dans le domaine. Voilà. Et si vous souhaitez absolument rester seul et créer seul son entreprise, mais dans ce cas-là, je vous conseille de faire en sorte d'avoir une formation. Donc l'État ici en France permet de pouvoir se mettre en congé pour pouvoir se former et par la suite se projeter dans sa création.
Alors d'ailleurs, la semaine dernière, j'avais posé la question, je suis dans les médias, c'est vrai. Et si je me lançais dans l'univers du bâtiment, par exemple, qu'est-ce que je devrais faire?
Si vous devez vous lancer dans le secteur du bâtiment, je vous conseillerais que si vous courez après le temps de vous associer avec quelqu'un qui a du métier, voilà, qui a 10 ans, 15 ans d'expérience dans ce domaine-là, et vous allez lui apporter votre expertise au niveau communication, au niveau marketing, vu que vous êtes dans le domaine de la communication, ouais. Je pense que ça serait quelque chose de très bien pour pouvoir développer l'activité ensemble. Maintenant, si vous souhaitez absolument créer et maîtriser vous ce domaine d'activité, je vous conseillerais de prendre le temps nécessaire à plus de 2 ans, 3 ans, le temps de vous former. Si vous voulez devenir électricien, il faudra absolument rentrer dans une société de BTP pour pouvoir vous former, être embauché comme salarié et par la suite créer votre société.
Quel est le sujet du jour dans lequel nous allons plonger aujourd'hui?
Une fois que nous avons validé nos compétences, exact, on se dit, tiens, les compétences sont là, on peut le faire, soit seul, soit accompagné, il faut passer à l'étape étude du marché.
Voilà, l'étape étude du marché, tout en rappelant à nos auditeurs que vous aurez la possibilité tout à l'heure de nous appeler en direct au 0155 07 58 00 pour toutes vos questions et on écoutera également le témoignage d'une entrepreneuse qui est avec nous sur le plateau. On va la présenter tout à l'heure. Alors, où pouvons-nous trouver la documentation nécessaire pour alimenter notre étude, coach Demuller? Ce sera donc ma première question.
Vous savez, pour la première chose à faire, il faut absolument se documenter sur le marché qu'on souhaite pénétrer. Donc, il y a, pour trouver toutes ces informations-là, vous pouvez vous référer par rapport à la presse spécialisée. Vous savez qu'il y a des presses selon les différents secteurs d'activité. Mm-hmm. Vous pouvez aussi vous référer sur les bases de données professionnelles. Par exemple, il y a un organisme XERFI, X-E-R-F-I, qui concentre toutes les informations selon les secteurs d'activité. Ça vous permettrait de voir et de mesurer tous les secteurs porteurs et tous les chiffres clés. Vous pouvez aussi vous référer sur des articles, voire des sites web qui traitent le sujet dans lequel vous souhaitez vous lancer.
Voilà, alors l'idée est de comprendre les rouages et les clés du marché ciblé.
Tout à fait, c'est bien ça.
Alors, à présent, j'aimerais vous demander quels sont les 5 points sur lesquels se repose l'étude de marché.
Vous savez, le premier point majeur, c'est le marché en lui-même. vous allez vous interroger par rapport à ce marché-là. Quelle est la taille de ce marché? À quel cycle de vie se trouve? Est-ce qu'on est dans le démarrage? Est-ce qu'on est en croissance? Est-ce qu'on est en maturité? Est-ce que ce marché-là est en déclin? Vous pouvez aussi vous poser la question par rapport à ce marché. Est-ce que ce marché-là reste rentable à ce jour ou non? Je vais vous donner un exemple simple. Hein. Aujourd'hui, si vous venez me voir coach Daimler, je souhaiterais créer un taxiphone ici en France.
C'est en déclin.
Oui, c'est totalement en déclin. Ça serait problématique de pouvoir se lancer dans ça.
Ce n'est plus rentable d'ouvrir des taxiphones, par exemple?
Non, du tout. Ici en France, non. En Afrique, dans certains endroits, c'est encore rentable. Donc, je vous conseille de profiter. Mais à un moment donné, quand tous les opérateurs vont bien s'installer et vont diminuer les coûts de communication, ben les taxis phones n'auront plus lieu d'être. En fait.
Est-ce que l'évolution de la téléphonie mobile est peut-être aussi l'une des raisons de cette perte de vitesse des taxis phones?
Oui, mais bien sûr, parce que je pense que vous vous rappelez, à l'époque, quand on allait dans les cabines, ça coûtait moins cher que quand on avait notre abonnement. Aujourd'hui, certains opérateurs, je ne vais pas citer leur nom pour éviter de faire de la publicité, vous commencez à avoir des abonnements à partir de 2€ et jusqu'à 10, 15, 20€. À l'époque, c'était inimaginable. Donc, à partir de là, vous allez créer votre taxiphone. Au final, vous n'aurez pas de clients en face. Donc, c'est plus d'actualité.
On a parlé des taxiphones, mais également des cartes prépayées, par exemple, qui ont disparu pratiquement de la circulation.
Exactement, parce que pour l'instant, nous, au niveau Afrique, on est un peu pénalisé sur cette affaire de téléphonie, parce que dans certaines zones, il y a même les appels sont devenus gratuits. Aujourd'hui, grâce à tout ce qui est WhatsApp, voilà, on peut passer nos coûts de téléphone par le biais d'Internet. Donc, il y a quasiment plus de frais au bout. Donc, à partir de là, tout ce qui est taxiphone, tout ce qui est cabine de téléphonique n'ont plus lieu d'être. Donc, c'est ça l'avantage. Et l'objectif de l'étude du marché, ben, c'est ça. Ça vous permet de prendre toutes les informations nécessaires. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire, il est conseillé d'aller voir des sociétés qui sont spécialisées dans l'étude de marché. Et bien sûr, il faut payer la prestation.
Alors, j'aimerais qu'on pointe du doigt aussi un secteur d'activité qui est, ma foi, prisé, mais qui commence à connaître un certain déclin, alors qu'à l'arrivée de ce marché-là, tout le monde s'est rué dessus, ça marchait super bien. D'ailleurs, il y a eu des crises entre les taximans et notamment les chauffeurs VTC,
par exemple.
Aujourd'hui, chauffeurs privés, VTC, commencent aussi à prendre de l'eau.
Vous savez, même...
Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça?
Il y avait déjà un premier point, c'était l'engouement. On se disait, je suis mon propre chauffeur, j'ai une belle voiture. Et moi, quand les personnes venaient me voir, je m'asseyais avec ces futurs créateurs. Je lui disais, écoutez, on va faire le calcul. Logiquement, vous faites entre 250 et 300€ jour. Voilà. Quand on fait le prix de la location du véhicule, parce qu'au départ, quand vous créez votre activité, la banque ne vous fait pas confiance le plus souvent. Donc, vous louez un véhicule auprès d'une autre société qui a acheté 10, 15 voitures et qui met en location pour tous les chauffeurs. À partir de là, quand vous commencez à déduire les coûts de la location du véhicule, le gasoil, l'essence que vous payez au quotidien
et la location.
On arrive à être quasiment moins bien payé à l'heure par rapport à une personne qui travaille, entre parenthèses, au McDo. C'est pas critiquer les personnes qui travaillent au McDo, mais c'est simplement le rapport que je pouvais faire. Or, les gens s'imaginaient que je roulais avec des berlines, des belles voitures. Au final, quand on faisait le calcul, si vous déclarez tout officiellement, vous vous retrouvez à gagner à peine 1100 à 1200€. Pas grand chose. Voilà. À un moment donné, quand les gens ont commencé à se réveiller, à faire vraiment l'étude de la rentabilité de ce secteur d'activité, ils se sont dit,
Mais pourtant, au départ de cette activité, il y avait beaucoup d'engouement et ça marchait plutôt bien. Moi, j'ai écouté des témoignages de certains chauffeurs qui disaient qu'en un mois, on pouvait avoir 4 à 5 000€ le mois.
Mais Phil, parce que les gens ne calculent pas les choses. On peut avoir 3, 4, 5 000€ le mois en faisant combien? En faisant 16 heures par jour. Il faut toujours ramener votre rentabilité, ce que vous gagnez au taux horaire. Parce que je peux faire 4 000€, 5 000€, mais si je fais 20 heures tout le jour de travail, au taux horaire, quand je ramène ça, je dis, au final, je suis payé à peine à 7€, à 8€ de l'heure. Or, une autre personne avec les mêmes heures travaillées fait le double, voire le triple.
Exact.
Donc, il faut absolument faire ce genre de rapport-là pour savoir est-ce que c'est un marché porteur ou pas. Et l'autre déclin qui est, c'est l'autre élément qui explique le déclin, à l'époque, quand vous avez la licence, comment dire, transport de personnes, vous pouvez embaucher des chauffeurs. Mmh. 12, 13, 15 chauffeurs qui pouvaient travailler pour une société de transport de personnes. Et à partir de là, il n'y avait pas la nécessité d'avoir la carte personnelle par chauffeur.
Ouais.
Or, l'État, avec, je pense, la pression des chauffeurs taxi, a exigé maintenant que chaque chauffeur doit être diplômé pour pouvoir, exactement, pour pouvoir, comment dire, conduire
un véhicule. Donc, au final, la réglementation est un peu responsable de ce déclin, de ce secteur qui commence à prendre de l'eau.
En partie. Donc, c'est plusieurs éléments qui ont fait que aujourd'hui, être VTC, pour moi, c'est, pour ma part, hein, c'est un complément de revenus. Voilà. Si vous vous focalisez à dire que, ben, je vais m'enrichir en faisant cette activité-là, il y a une bonne partie des sociétés qui sont passées bien avant. Les sociétés qui louaient les véhicules.
Qui ont même fermé.
Qui ont déjà fermé. Je pense qu'ils ont déjà fait le nécessaire pour pouvoir remplir les poches. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Et ces personnes-là qui anticipent les marchés, c'est pour ça que ces personnes-là, j'en suis sûr, c'est des gens qui étudient au quotidien le marché. Donc, ils ont su qu'à un moment donné, VTC, ça allait être porteur pour les gens qui vont souhaiter devenir leur propre patron, parce que c'était rapide à faire, c'était exact. Simple. Mm-hmm. Ben, ils se sont dit, ben, tiens, ben, moi, je vais aller négocier avec un concessionnaire, je vais prendre 20 voitures et je vais rester tranquillement à la maison et je mets en location mes 20 voitures. Voilà, c'est vraiment ça ce qui s'est passé au fait.
Voilà, alors si vous avez des questions, ben, n'hésitez surtout pas, quel que soit le secteur d'activité, à poser, hein, à notre coach D. Muller, 0155 0758 00. Si vous êtes sur le continent, à Abidjan, vous nous écoutez sur 91.1 Africa Radio. On va marquer une pause et on revient juste après.
Africa.
Le plus de la grande matinale avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
Parlons d'entreprise, deuxième partie, votre traditionnel rendez-vous tous les mardis sur Africa Radio, hein, de 9h à 10h avec coach D. Muller, notre invité. On va démarrer au téléphone avec madame Alice Luton qui est bien en ligne. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez une question à poser au coach D. Muller? Nous vous écoutons.
Oui, alors, merci de prendre mon appel. Donc, effectivement, j'ai une question pour le coach, puisque mon mari et moi avons l'intention là de reprendre un fonds de commerce, et le cédant nous annonce un certain chiffre d'affaires. Et oui. En fait, voilà, je voudrais savoir comment être sûr que ce chiffre est, on va dire, le plus honnête possible et que, par exemple, le cédant n'a pas gonflé exprès son chiffre pour valoriser son fonds et donc le vendre un peu plus cher.
D'accord, coach. Oui, bonjour, madame Luton.
Bonjour.
Oui, au fait, il faut déjà, il y a un premier indicateur, c'est déjà par rapport au compte, les bilans qui vous sont mis à disposition. À savoir, quand vous avez les comptes, il faut vérifier que ces comptes-là ont bien été établis par un cabinet d'expertise comptable. Parce que comme il y a une notion de responsabilité de l'expert comptable, en général, les choses sont faites, effectuées dans les normes. Ça, c'est le premier point. Voilà, c'est déjà un indicateur. Mm-hmm. Le deuxième indicateur, ce que je peux conseiller, par exemple, quand vous avez le projet de racheter un fonds de commerce, je vous conseillerais de passer quelques jours dans la boutique avec le futur vendeur et vérifier le chiffre d'affaires fait tous les jours. Et vous prenez des D'accord. notes et vous additionnez. Et après, derrière, vous allez extrapoler ce chiffre d'affaires par rapport à une année. Voilà, donc ça, pour moi, c'est vraiment la première démarche, parce que vous pouvez pas aveuglément faire confiance à des documents qui vous sont posés, qui vous sont donnés entre les mains. Ouais. Vous devez vous-même aller sur place et vérifier. Et l'autre chose, si ça concerne par exemple des activités saisonnières, il faut faire attention à un coefficient.
Les périodes de creux.
Voilà, par rapport à ces périodes-là, il faut là. il faudra l'intégrer. Parce qu'il y a certaines activités, on vend plus pendant le mois de Noël, décembre, tout ce qui va avec. Et les mois suivants, il y a une baisse d'activité qui est normale parce que c'est à ce moment-là, on ne consomme pas tel ou tel produit. Voilà, donc c'est vraiment le conseil majeur, c'est vous permettre d'aller sur place. Dès lors que vous voyez que le dirigeant n'est pas très motivé à vous laisser vérifier cela, voilà, c'est... Voilà. Et puis, autre chose, vous avez quand même dans le secteur d'activité les chiffres, les marges qui sont disponibles par rapport à des différentes sociétés du coin pour vérifier est-ce que c'est cohérent ou pas. Je vous donne un exemple, vous avez une boulangerie, quand vous voyez que cette boulangerie-là chiffre à 800 000 euros, or les 2-3 boulangeries qui sont dans le même secteur sont à 400 000 euros, il y a quand même des questions à se poser sur la véracité des chiffres fournis.
Ouais. D'accord.
Voilà, ce sera tout, Madame Luton.
Une dernière question.
Allez-y.
Donc toujours par rapport à ce fonds de commerce, si le cédant a actuellement des contrats avec, par exemple, tel ou tel établissement, un partenariat privilégié avec tel ou tel établissement, est-ce que dans le chiffre du fonds de commerce, moi je dois racheter ce fonds de commerce tenant compte des contrats qu'il peut avoir ou alors en faisant fi de ces contrats puisque ce sont des contrats qui sont liés à lui et entre guillemets que je ne vais pas forcément récupérer. Je ne sais pas si j'ai été claire.
En fait, c'est quel type de contrat par exemple auprès d'un fournisseur de marchandises ?
Par exemple, si on est sur une boulangerie, il peut très bien avoir un contrat avec un hôtel où il s'engage à livrer par exemple le petit déjeuner tous les matins. Donc ça, forcément, on va dire dans son chiffre, je dis n'importe quoi, ça pourrait lui rapporter 100 000 euros sur un chiffre d'affaires total de 300 000 euros.
Ah ok, donc, je vois très bien. En fait, ça fait partie des éléments qui valorisent le fonds de commerce. Donc automatiquement, quand vous allez arriver, ben vous allez bénéficier de cette clientèle-là qui sont des sociétés avec un chiffre d'affaires fixe. Donc c'est clair et net que ça va faire en sorte que ben, quand vous allez négocier, le vendeur va intégrer ses coûts. Contrat-là parce qu'il y a une garantie de chiffre d'affaires. Il y a un autre point où il faut faire attention, surtout pour les personnes qui reprennent des fonds. Faites attention sur la reprise au niveau du bail commercial. Il faut vous assurer que le bailleur soit au courant de la transaction qui va être réalisée.
D'accord.
Et deuxièmement, vous assurer qu'il y aura un renouvellement dans les mêmes conditions du bail. Parce que des fois, vous pouvez arriver quelque part, on vous cède le bail, on vous cède un fonds de commerce et le bail va arriver à terme parce que un bail professionnel, c'est un bail de 3, 6, 9. Mmh. Il arrive à terme et derrière, il reste un an de durée et le bailleur ne souhaite pas renouveler. Or, vous avez racheté un fonds de commerce lié spécifiquement à cet endroit-là. Donc, c'est un élément qu'il faut faire attention, avoir la garantie auprès du bailleur que votre futur bail sera renouvelé en temps et en heure et surtout dans les mêmes conditions.
D'accord.
Merci beaucoup, Madame Merci. Alice Luton, qui a pris beaucoup de temps à poser ces questions. En tout cas, merci d'y participer. Je rappelle,
merci à vous.
Merci à vous. Alors, je rappelle, c'est tous les mardis, donc, sur Africa Radio, en compagnie du coach des Muller. Je pense que Sylvain est en ligne. Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour.
C'est quoi la question de l'entrepreneur, Sylvain?
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Ma question, elle est simple, parce que moi, je suis un chauffeur routier.
Oui.
Et je compte me lancer sur l'activité. Je compte me passer d'abord la formation pour pouvoir me lancer.
D'accord.
Et je veux les conseils.
Vous souhaitez vous lancer dans ce secteur d'activité. Donc,
je pense qu'il est déjà dans le secteur.
Oui, donc vous êtes dans le secteur.
Il voudrait se lancer à son compte.
Donc, première compétence au niveau activité, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, ça ne suffit pas. Parce qu'en plus, vous parlez du secteur de transport. C'est un secteur qui est réglementé. Donc, vous êtes obligé d'avoir la capacité de soit de moins de 3 tonnes ou de plus de 3 tonnes 5 au niveau du diplôme. Maintenant, vous comptez vous lancer dans ce secteur-là. Il faut d'abord passer cette formation-là. En attendant que vous préparez cette formation-là, je vous conseillerais de commencer déjà à faire aussi votre étude de marché, à voir les potentiels clients Hein, oui. Et puis l'autre point, ben, commencer à mettre un peu d'argent de côté parce qu'il faut un capital pour pouvoir se lancer. Il faut aussi voir éventuellement les futurs fournisseurs pour les véhicules. Parce que vous, c'est les véhicules, je ne sais pas, c'est moins de 3,5 tonnes ou plus de 3,5 tonnes?
Non, plus.
Oui, voilà. Donc, juste à titre d'information, pour louer un véhicule, il faut compter à peu près 2100 euros TTC par mois. Donc, ça veut dire qu'il est nécessaire pour vous d'avoir quand même un budget conséquent qui peut tourner entre 15 à 20 000 euros pour pouvoir démarrer l'activité. D'accord ?
D'accord.
Voilà.
Oui. Ce sera tout, l'entrepreneur, chauffeur routier, Sylvain ?
Oui, non, je veux savoir si le marché elle est aussi rentable.
Ah, voilà.
Si le marché est rentable.
Parce qu'on dit que les VTC, ce n'est plus trop ça aujourd'hui. Alors, est-ce que le marché est rentable pour les poids lourds ?
Le marché des poids lourds peut être rentable, ça dépend de votre positionnement. Est-ce que vous êtes le premier ou le deuxième ou le troisième sous-traitant ? Vous, en démarrant, et vous n'êtes pas encore vraiment ancré dans ce secteur-là, malheureusement, au début, ça va être très difficile pour vous pour dégager une bonne rentabilité. Donc, ça va vous demander de serrer la ceinture pour pouvoir faire en sorte que ben, dans les mois et les années à venir, de monter en puissance. Voilà.
D'accord.
Ce sera tout, Sylvain ?
D'accord. Oui, ça sera tout. Merci, Phil, et merci, coach.
Merci, je vous en prie.
Merci beaucoup, Sylvain. Je rappelle donc Parlons d'entreprise, votre nouveau rendez-vous sur Africa Radio tous les mardis en compagnie du coach Demuller. Posez donc toutes vos questions si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Nous avons donc sur le plateau le plaisir de recevoir mademoiselle Nissi Mayassi, hein, qui est donc entrepreneur et qui voudrait nous faire un témoignage par rapport au coach D. Muller qui vous accompagne, vous teniez absolument à passer ce matin en direct. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Alors comment vous rencontrez justement le coach D. Muller ?
Oulala, je l'ai rencontré par rapport à mon pasteur en fait.
D'accord.
Il est son parrain de mariage et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Alors dans quelle activité êtes-vous ? Dans la cosmétique, c'est bien ça ?
En fait, je suis dans trois activités différentes. Je suis dans la cosmétique, l'esthétique plus profonde en médecine esthétique,
ouais,
et je fais de la couture du sur-mesure.
Waouh ! Et comment on peut rassembler tout cela en un dans une entreprise ?
Ben en fait, j'ai en tant que femme, en fait, je connais nos besoins, parce que comme le coach Demuller le disait, avant de se lancer dans un secteur, il faut savoir répondre en fait à un besoin. Quand on crée une société, on ne crée pas seulement pour faire comme un tel, pour faire comme X, mais il faut répondre à un besoin.
D'accord.
Et moi, qui tant que femme, je sais que souvent quand on a des mariages, on a envie de se coiffer, on a envie de faire des soins de visage, on doit aller récupérer nos habits chez le tailleur. Je me suis dit, ben, pourquoi pas réunir tout ça dans une même enseigne. Quand la femme vient, en haut, elle peut faire ses soins, elle peut se maquiller, elle peut avoir ses produits capillaires. Et juste, elle descend en bas, elle récupère son habit chez le tailleur et puis elle rentre chez elle. Ça nous évite de nous éparpiller et aussi à nos maris de nous crier dessus.
Ah, donc si je comprends bien, le coach vous a permis de structurer tout cela ?
Totalement. J'ai vraiment eu un suivi exceptionnel avec lui. C'est que je ne lui dis pas souvent, mais quand je parle de lui, en tout cas aux gens qui m'entourent, je dis que c'est un coach génial, vraiment. Il est formidable parce qu'il a plein de choses à faire. Il faut savoir qu'il est quand même chef d'entreprise lui-même. Il a beaucoup de clients à gérer. Mais ce que je trouve ça extraordinaire, d'ailleurs, il faudra que tu me donnes ton secret, c'est qu'il a toujours du temps pour nous. Mais c'est grave. Moi-même, je suis chef d'entreprise. Je sais que des fois, je suis éparpillée. J'arrive pas à vraiment, des fois, à bien gérer comme il se doit. Mais je sais qu'avec tout ce qu'il a à faire, il trouve toujours le temps de t'écouter, de te conseiller. Et vraiment, à n'importe quelle heure, quand on a besoin de lui, il est toujours présent.
Alors, sur le plan financier, parce que bon, c'est vrai que parfois, on est mal à l'aise lorsqu'on parle d'argent. Mais est-ce que vous pensez que depuis que vous travaillez avec Demuller, dans l'organisation de vos finances, vous vous retrouvez ?
Ah, totalement. Totalement, dire le contraire, ça sera mentir. Il m'a appris comment gérer. Il m'a appris comment, comme il expliquait tout à l'heure, c'est bien beau de faire, par exemple, 1000 euros par jour, mais il faut savoir comment ensuite pouvoir gérer. Il y a des factures à payer. Par exemple, on va prendre ma structure. Je dois payer le...
Comment elle s'appelle d'ailleurs ?
Dynastie J,
voilà.
Oui, la beauté en un monde, voilà pourquoi je rassemble tout en un seul... dans une seule enseigne. Donc, on a peut-être l'électricité à payer, SFR à payer. En fait, tu t'apprends vraiment à, quand tu fais ton chiffre d'affaires,
ouais.
comment bien repartir, comment bien garder, comment bien gérer... comment bien gérer tes fonds.
Voilà, ne surtout pas utiliser les fonds comme une épicerie. N'importe comment. Alors, coach, j'aimerais savoir combien coûte une étude de marché faite par un professionnel.
En fait, il y a des études de marché vraiment basiques. Ça peut commencer à 500 euros. Mmh. C'est un budget plus que correct. Après, si vous voulez vraiment des études bien poussées, ça peut monter à 3, 4, 5, 10 000, 15, 20 000 euros, en fait. Mmh. Mais pour les petites sociétés, je pense qu'un budget de 500 euros pour démarrer, c'est plutôt correct. Voilà.
Un budget de 500 euros pour une bonne étude de marché.
Oui, oui, c'est ça. Voilà.
Est-ce que ce sont des éléments nécessaires qui pourraient convaincre des futurs clients de se dire cette entreprise a fait une étude de marché avant de se lancer, ça a l'air plutôt sérieux. Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre justement d'observer le sérieux d'une entreprise ?
Moi, pour moi, c'est déjà pour soi-même. L'étude de marché, c'est se dire, je souhaite me lancer dans ce secteur d'activité-là. Est-ce que c'est un bon choix ou non ? J'ai donné l'exemple de VTC tout à l'heure. Au Congo, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des flat hôtels. Mmh. Parce qu'ils se sont dit, bah, tiens, le voisin l'a fait, la voisine a pu le faire, moi, je vais faire la même chose. Je suis allé dernièrement au Congo, on s'est rendu compte que les flat hôtels se sont transformés quasiment en logements permanents parce qu'il y en a tellement
tout le monde
à Kinshasa.
S'est lancé dans l'aveuglette.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire. Cette étude-là, c'est d'abord pour soi. C'est même pas pour garantir auprès de nos futurs partenaires, que ce soit client ou fournisseur, mais l'étude de marché, c'est pour nous, savoir est-ce que je suis dans le bon, est-ce qu'il y a la rentabilité sur ce marché-là, est-ce que c'est un marché porteur ou pas. Voilà, donc je pense que c'est vraiment pour nous. Voilà.
Voilà, je rappelle numéro de téléphone 0155 0758 00, et si vous êtes sur le continent, n'hésitez surtout pas à nous appeler. On va prendre Youssouf qui fait son arrivée. Bonjour Youssouf.
Vous allez bien, bonne année à tout le monde.
Bonne année Youssouf. Alors, Youssouf est dans quel secteur d'activité où il voudrait se lancer ?
Moi, je suis peintre d'un bâtiment.
D'accord. Alors, comment ça se passe dans le milieu des peintres ?
Bon, ça se passe très bien. Comme il avait dit le monsieur, il faut, avant de commencer quoi que ce soit, il faut avoir les bonnes bases dès le départ, des clients, des fonds. Bon, c'est très important. Mmh. Donc, à ce moment, moi, je suis en chômage, j'ai envie de créer mon j'ai envie de travailler dans mon compte.
D'accord.
Donc, je vais vraiment tout simplement lui demander quelques
conseils,
renseignements, questions.
D'accord.
Comment ça doit se passer. Pour commencer, quoi.
Ok.
J'ai 20 ans d'expérience dans le métier.
Ok.
Donc, j'ai envie de travailler dans mon compte maintenant. Donc, au fur et à mesure, l'âge aussi monte, tout ça, ça joue dedans.
Donc, c'est vraiment votre conseil. On a compris.
D'accord. En fait, au niveau de conseil, il y a déjà un premier élément. Vous avez déjà 20 ans d'expérience, donc vous remplissez les conditions pour pouvoir créer une société. Deuxième point, là, actuellement, vous êtes au chômage. Vous êtes indemnisé ou pas ?
Oui. Mais bientôt, ça va finir.
Bientôt quand, en fait ?
Dans 2 mois.
Dans 2 mois ? Ah, ok. Au fait, il aurait été vraiment préférable de démarrer pendant que vous êtes indemnisé. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de maintenir votre chômage et de l'autre côté, démarrer votre activité sans pour autant commencer déjà à ponctionner votre création de richesse que vous faites. Donc là, quand vous êtes au chômage, il vous reste que 2 mois. Est-ce que vous avez eu le temps de mettre de l'argent de côté pour pouvoir démarrer cette nouvelle activité ?
Oui, j'ai mis un peu à côté quand même.
Donc vous avez mis un peu à côté. Est-ce qu'il y a de la clientèle ? Vous avez quelques clients ou pas ?
Voilà, exactement. Bon, parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi. Il y a des menuisiers, des plombiers, des carrelaires. Donc ça marche comme ça, quoi.
D'accord.
Donc voilà. Donc c'est un surfi. Bon, quand t'as des, bon, par exemple, si vous avez des amis plombiers, des maçons, qui se donne, qui vous cherche de boulot.
D'accord.
Bon, ils disent à leurs clients, bon, j'ai un peintre.
D'accord.
Bon, ça, normalement, ça démarre comme ça. Moi, mon problème aujourd'hui, bon, je veux vraiment votre numéro parce que j'ai des soucis.
On va le donner, mais posez d'abord vos questions.
Oui, donc vous aurez les informations nécessaires. Posez-moi votre question. Si vous souhaitez vous lancer, il y a deux possibilités. Soit pour l'instant, par mesure de prudence, vous démarrez en tant qu'auto-entrepreneur. Pour les premiers mois, parce que j'encourage pas que ce profil-là reste très longtemps, parce que quand vous allez vouloir travailler avec des sociétés, à un moment donné, ils sont un peu hésitants à confier du travail à des auto-entrepreneurs parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, d'avoir une certaine garantie. Donc, auto-entrepreneur, c'est vraiment pouvoir faire déjà, vos premiers pas par rapport à vos amis qui ont peut-être d'autres sociétés dans le secteur du bâtiment pour pouvoir facturer les choses légalement sans trop payer de charges. Vous pouvez démarrer en tant qu'auto-entrepreneur pendant les premiers mois. Si vous voyez que l'activité prend bien, que les choses avancent, à partir de là, on pourra créer une société, soit SARL, soit SAS. Ça, on se verra ou vous verrez avec un autre professionnel qui pourra choisir les statuts juridiques nécessaires, adaptés à votre profil et à votre projet.
D'accord.
Alors, coach, est-ce que c'est un secteur porteur également ? Est-ce que cette activité-là aussi est suffisamment rentable ?
Je pose
une question de profane.
Je tiens à vous assurer que le secteur du bâtiment, ça fait partie des secteurs majeurs d'activité dans un pays. Mmh. Aujourd'hui, en France, il y a énormément de travaux avec le Grand Paris. Les choses se développent énormément.
Partout en France.
Donc, actuellement, il y a du travail dans le secteur du bâtiment. Vous savez, souvent, pour relancer l'économie même mondiale, malheureusement, on fait quoi ? On crée des guerres, on détruit des maisons, on détruit des bâtiments pour pouvoir relancer l'activité. Parce que autour du bâtiment, il y a beaucoup d'activités qui sont collées, à savoir la restauration. Il y a énormément le transport, le matériel. Donc, quand le secteur du bâtiment se porte bien, tout le monde se porte bien autour. Alors, donc, actuellement, en France, c'est le cas.
Voilà, j'ai fait exprès de poser cette question pour rassurer un autre ami, Youssouf. Youssouf, c'est bon ?
Oui, c'est bon. Bon, je voulais savoir aussi si je peux démarrer aussi avec un associé, soit une femme ou un homme, je m'en fous, quelqu'un qui est compétent, motivé.
Oui.
Qui a envie d'avancer, quoi.
D'accord. Oui, mais cette possibilité-là, oui, pourquoi pas, mais il faut savoir qu'est-ce que la personne va apporter. Vous, par exemple, si vous êtes un homme de terrain, vous, c'est aller faire le travail. Si vous voulez vous associer avec une autre personne, la personne peut gérer tout ce qui est administratif, faire les devis, faire la facturation, suivre la trésorerie. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un plus de la personne. Voilà, ça doit être un plus à la fois sur le travail et sur le plan financier. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire.
Oui, je pense que la tête, c'est au niveau des administratifs, quoi. Les dossiers, moi, ça me prend trop la tête.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une partie que votre associé pourra gérer.
Exact.
Et sur le plan comptable, vous allez voir un cabinet d'expertise comptable qui gérera tout ce qui est comptable.
Restez avec nous, merci Youssouf.
Merci.
On vous donne le numéro de téléphone donc, pour joindre le coach Demuller, 01 60 23 88 01. Vous appelez le Standard Africa Radio et vous aurez toutes les informations. On va prendre Gilles. Gilles, bonjour.
Oui, bonjour, comment allez-vous ?
Bienvenue, bonjour, Gilles.
Bonjour, coach.
Bonjour, Gilles.
Voilà, bon, je ne vais pas perdre votre temps. En fait, moi, je suis dans le secteur de la livraison. Je ne vais pas citer la... Je travaille pour le sous-traitant d'une grosse boîte américaine, on sait tous.
D'accord, on voit qui c'est.
Et voilà. Et en fait, je vois que dedans, il y a beaucoup de... Ils sous-traitent beaucoup et j'aimerais bien me lancer à mon propre compte.
D'accord.
J'aimerais bien ouvrir une société et je veux savoir si c'était possible de voir avec vous pour voir qu'est-ce que je peux entreprendre pour commencer déjà dans ce
secteur d'activité.
Voilà.
Avez-vous la capacité ? C'est toujours la condition. Vous êtes tous les chauffeurs là. Avant de nous appeler, il faut déjà vous assurer que vous avez ce diplôme là qui est nécessaire pour démarrer cette activité là. Est-ce que vous l'avez ?
La capacité là dans pas très longtemps. Je vais la passer là.
D'accord. Ben, une fois voilà, que vous l'avez, c'est déjà une bonne étape. Après, derrière, qui dit capacité, c'est très bien, mais dit finance. Est-ce que là, vous mettez l'argent un peu de côté? Vous savez, souvent, je dis aux futurs créateurs, vous savez, quand vous souhaitez créer une entreprise, à un moment donné, il faut faire des sacrifices. On doit mettre de l'argent de côté. Avant de compter sur les amis, sur la banque, vous-même, vous devez déjà être capable d'épargner. S'il n'y a pas d'épargne de votre part, c'est pas intéressant. Le banquier, il raisonne simplement. Il va se dire, vous êtes capable de mettre 1000 euros, pourquoi lui, il va vous prêter 20 000, 30 000, 40 000. Mais quand vous ramenez 20 000 euros à un banquier en disant, écoutez, moi j'ai un apport de 20 000, prêtez-moi 100 000, il voit déjà en vous la capacité d'un bon gestionnaire, celui qui est capable d'épargner et de gérer ses fonds propres, il sera capable de gérer les fonds de la société. Donc avant de parler, j'ai envie de créer, posez-vous déjà la question, est-ce que j'ai un peu d'argent de côté?
De côté.
Voilà, ouais. C'est ça.
Ok.
Ok.
Ok, d'accord.
C'est bon, Gilles.
Oui, moi j'ai un peu d'argent de côté, mais après, je sais pas comment...
D'accord, mais on verra certainement avec le cabinet du coach D pour vous accompagner. Merci Gilles, nous n'avons plus assez de temps. On va terminer avec un dernier auditeur. J'ai pas le nom. Bonjour, allô, allô, bonjour.
Oui, allô.
Oui, bonjour, c'est monsieur.
Oui, bonjour, c'est monsieur Koné.
Monsieur Koné, on va terminer avec vous. Nous vous écoutons, monsieur Koné.
Oui, je voulais le numéro déjà du coach. Bonjour déjà.
Non, mais avant d'avoir le numéro du coach, Koné, il faut quand même nous expliquer. Hein, c'est quoi votre secteur d'activité?
Non, moi, ma question d'activité, c'est de savoir. Pour moi, je suis un peu dans l'immobilier. C'est de savoir, dans l'immobilier ici et en Afrique, qu'est-ce qui est plus rentable, en fait?
Qu'est-ce qui est plus rentable dans l'immobilier, c'est ça?
Ici ou en Afrique?
Ici ou en Afrique, parce que comme moi, j'ai fait de l'immobilier ici. Bon, donc, je ne sais pas en Afrique s'il y a plus de rentabilité par rapport à ici. Quoi.
Vous savez, ça dépend qu'est-ce que vous souhaitez faire comme immobilier. Est-ce que vous souhaitez construire des bâtiments et pouvoir mettre en location? Est-ce que vous souhaitez plutôt des maisons privées? Donc ça dépend. Est-ce que vous souhaitez éventuellement acheter des terres et louer vos terres? Donc ça dépend. Au niveau de la grande différence qu'il y a entre ici et là-bas, ici on a quand même une certaine garantie, une certaine protection. Vous savez que quand vous achetez votre bien, ben voilà, il y aura normalement pas de destruction, pas de vol ou de revente sans votre accord. Et puis, ben voilà. Et par contre, en Afrique, il faut vraiment s'assurer que les choses sont faites dans les normes au niveau de la construction. Parce que demain, vous voulez investir 100 000, 150 000. Il faut vous assurer que le bien pour lequel vous allez investir ou vous-même vous allez faire la construction, faut que ça soit dans les normes, que ça puisse durer 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est souvent ça la difficulté. Parce que pour parler de rentabilité, il faut déjà s'assurer que le bien sur lequel vous allez vous lancer, que vous allez mettre sur le marché, répond aux normes réelles dans le secteur du bâtiment. Et c'est souvent ça la difficulté. Maintenant, si vous avez déjà investi ici, ben, je vous conseillerais aussi d'anticiper le marché qui se développe en Afrique, parce que ici on a un taux de rentabilité de 8% dans le secteur du bâtiment, dans l'immobilier.
Mais
en
Afrique, ça explose vite. Il faudrait peut-être aussi faire une étude du marché local.
Exactement.
Avant de se lancer.
Tout à fait. Donc, il faut vraiment faire cette étude-là. Mais vous savez très bien que dans l'avenir, beaucoup de sociétés vont s'installer en Afrique. Moi, le conseil que je donne aux personnes, c'est pouvoir déjà investir sur des terrains, acheter des terrains, acheter des terrains pour construire plus tard. Okay.
Merci beaucoup, Koné, pour votre question. Passez une excellente journée à l'écoute d'Africa Radio. Il est exactement 9h53. Je rappelle que cette émission sera en rediffusion demain à 6h35. Coach Demuller, c'est donc tous les mardis sur Africa Radio de 9h à 10h. Coach, qu'est-ce qu'on peut dire avant de se quitter?
Simplement, il faut respecter les étapes liées à la création d'entreprise. Si ce n'est pas respecté, à un moment donné, ne soyez pas surpris que ça ne fonctionne pas avant d'accuser tous les sorciers du monde en disant que eux tous, ils ont mis les yeux sur mon projet. Or, nous-mêmes, on a été mauvais dans la préparation.
Je rappelle les numéros de téléphone 06 60 23 88 01 ou vous appelez au 01 49 35 17 ou 57. Vous appelez le standard d'Africa Radio que vous connaissez par cœur au 01 55 07 58 00 et vous aurez le numéro de téléphone du bureau du coach D. Muller qui vient tous les mardis nous donner quelques conseils. Merci à tous.
Merci.
le plus de la grande matinale sur Africa Radio.